On va continuer notre méditation sur le renouvellement spirituel dont nous avons besoin. Ce matin, on va aborder un autre point, si tu veux bien mettre la diapo, voilà. Les fausses et les bonnes attentes. Alors j'étais un peu rapide, j'ai pas eu le temps de travailler autant que ce que je voudrais. En fait, ce serait plutôt les fausses attentes, les fausses conceptions et les bonnes attentes. Et je pense que ce matin, on va pas avoir le temps de voir les deux notions. Mais effectivement, quand on parle de renouvellement spirituel, de nouvelle Pentecôte, de ressourcement, il peut y avoir toute une approche qui est semée de fausses conceptions par rapport à la manifestation du Saint-Esprit et de ses prodiges, de ses miracles, de ses actions au milieu de l'Église et d'un point de vue personnel. Et ce matin, on va voir une série de fausses conceptions qui ne sont pas forcément fausses au sens où la pensée serait complètement à rejeter, mais dans lequel il y a bien souvent besoin d'équilibrer les choses. Première fausse conception que l'on pourrait se dire, c'est « Ah, le jour où on sera renouvelé, le jour où on sera baptisé dans le Saint-Esprit, le jour où on sera tous remplis du Saint-Esprit, nous n'aurons plus de problème. » D'un point de vue personnel, on peut se dire ça. Seigneur, j'ai besoin de toi, je vais être rempli de toi, parce que comme ça, j'aurai plus tous ces problèmes, tout va couler, tout sera, roulera comme sur des roulettes. Alors je ne vais pas dire non plus, au contraire, ce sera l'inverse. Mais, c'est faux de dire que celui qui sera rempli du Saint-Esprit, celui qui sera vraiment dans cette relation parfaite avec le Seigneur, ne connaîtra plus de problèmes, de souffrances, de difficultés. Paul, est-ce que c'était un homme rempli de l'esprit ?
Amen.
Un petit peu. Il dira qu'il était en péril au milieu des naufrages. Et mais il ne dit pas que ça. Il dit qu'il était fréquemment en voyage, qu'il était en péril sur les fleuves, en péril par la part des brigands, en péril de la part de ceux de sa nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Hé, il a la choumoun. C'est pas possible. On pourrait lui dire, mon frère, mais avec tous les soucis que tu as, c'est pas, y a un blocage spirituel dans ta vie. Avec tous les soucis que tu as, c'est pas possible. Il y a un truc. Et on peut quand même, comme ça, se dire, mais c'est pas possible. Il y a des résistances, j'ai des difficultés. Paul, quand il parle de péril, c'est... Hein, on sait que c'est pas juste « Oh, on s'est moqué de moi quand j'ai témoigné. Hein, » plusieurs fois, il a été comme considéré, frappé. Une fois même, on a pensé qu'il était mort. Quand il est en péril, c'est des mots vrais. Trois fois en naufrage. Paul, arrête de voyager, quoi. C'est le Seigneur qui te parle, là. Tu dis que t'es missionnaire, mais chaque fois que tu prends le bateau, t'as un naufrage. Arrête, Paul, c'est pas pour toi la mission. Ouvre les yeux un peu. Non, c'est vrai, il y aura des problèmes. Et ce n'est pas anormal que de connaître des circonstances difficiles dans notre vie. David, l'homme selon le cœur de Dieu, inspiré, on a lu ses psaumes, même des psaumes prophétiques. Mais quand on lit ses psaumes aussi, on voit qu'il connaît des temps que je qualifierais même de dépressifs de temps en temps, hein. Ma couche est baignée de mes larmes. Paul, t'es vraiment pas spirituel, hein. C'était pas un homme renouvelé. C'est pas un homme spirituel. Mais si. Mais c'est pas parce que on est rempli du Saint-Esprit qu'on ne connaîtra pas des moments de difficulté, de remise en question, de souffrance individuelle. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Ah oui, il nous conduit, les verts pâturages, les courants d'eau. Ça c'est la bénédiction. Ah oui, mais en plein milieu du psaume, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Oh non, ça c'est pas spirituel. Alors, quand on est dans le Seigneur, on est toujours en haut de la montagne. Ben non. On peut connaître aussi la vallée de l'ombre de la mort. Alors, faisons attention à ces fausses conceptions. Il y a un chrétien, ça va être toujours au top. Ben non. Il y a des moments difficiles, il y a des moments d'épreuve, il y a des moments où on cogne, des moments où on est comme en péril. Mais nous verrons la prochaine fois, effectivement, les bonnes attentes que nous devons avoir. D'ailleurs, je vous rappelle, en Nombre 13, lorsque le peuple était prêt à rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Ah oui, ça c'est la bénédiction du Seigneur, le lait et le miel, oui, ça c'est l'onction. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer ? Parce qu'il fallait aussi combattre. Il fallait aussi combattre. Celui qui croira qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est tout va aller, c'est merveilleux, c'est tout va couler. C'est faux. Il y aura la bénédiction, mais il y aura aussi les combats. Il y aura les attaques. Il y aura les persécutions. Il y aura des situations de souffrance. Une deuxième mauvaise conception que nous pourrions avoir, c'est de croire que lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit, bouillonnant, animés du feu d'en haut, alors tout le monde va se convertir. Je crois que là, je prêche déjà des gens convaincus, malheureusement. Croire que, effectivement, les gens qui rentreront même dans cette salle, ils seront tout de suite touchés. Tout de suite, ils vont être saisis. Tout de suite, nos familles, nos amis vont se convertir. Si on est fait mieux que Jésus, ce serait bien. Mais Jésus lui-même a dit, nul n'est prophète dans sa nation, dans sa patrie, dans son foyer. Parce qu'il y a une chose où on ne sera jamais, ni Dieu ne s'y impose, ni nous n'arriverons à imposer la chose aux autres. Mais chacun est maître, entre guillemets, de son incrédulité. On ne pourra jamais forcer. Alors oui, je pense que plus nous serons remplis de la vie de Dieu, plus il y aura cette dynamique, plus il y aura cet enthousiasme, plus les gens verront que même au travers de la difficulté, on a un sauveur, on a un libérateur, on n'est pas dans la... Je ne vais pas dire le mot dépression, mais dans l'abattement total, plus les gens seront eux-mêmes interpellés, se diront mais j'aimerais bien avoir ce que toi tu as. Mais jamais est-ce qu'il y aura forcément comme ce souffle ou comme cette imposition de l'Esprit de Dieu qui convaincra les gens. Alors bien sûr, hein, je le rappelle, et on verra ça dans les bonnes attentes. On sait que partout il y a eu un réveil, un saut spirituel, il y a eu une vague aussi de conversion. Et on doit avoir ces attentes-là. Mais ne tombons pas dans la logique où, quelque part, ce que l'on va vivre, ça va forcément créer une sorte d'obligation, de puissance spirituelle qui va convaincre les gens. C'est pas nous qui allons convaincre, c'est pas nos expériences qui allons convaincre, c'est le Seigneur qui convainc. Par contre, nous, on sera peut-être effectivement comme des exhausteurs de goût, des gens qui vont révéler le goût du ciel, qui vont donner envie. Et c'est ça qu'on doit rechercher et prioriser. Seigneur, oui, remplis-moi de toi. Ne croyons pas non plus que les gens vont nous regarder avec admiration. C'est Paul qui prévient Timothée. En 2 chapitre 2 Timothée 3, 11, il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » Bah mince alors, au lieu que les gens viennent vers nous, peut-être même qu'ils nous persécuteront. Peut-être. Parce que quand on veut avoir une vie pieuse, une vie attachée aux choses d'en haut, on va tout de suite s'apercevoir que le monde va sentir qu'il a moins d'emprise sur nous. Et ça risque de le contrarier. Ne croyons pas non plus que par ce souffle qu'il y aura au milieu de nous, il n'y aura plus de problème dans l'église. Mais oui, comme on sera un même esprit, une même âme, un même cœur, on sera tous animés du même esprit, alors il n'y aura plus de problème, on aura la même vision, on aura les mêmes motivations. Alléluia! Malheureusement, on s'aperçoit que la réalité, c'est pas ça. Paul le dira même que pendant un temps, il l'a dit en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 26, il le redira en Galates chapitre 2 verset 4. Il dira qu'il a été en péril parmi des faux frères. Jésus a un faux frère. Déjà, il n'y a pas de fausse sœur, donc ça c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire que c'est forcément des gars. On crée un climat de suspicion au milieu de nous. C'est quoi des faux frères? Mais c'est des gens qui sont là, qui viennent, mais en fait, ils se sont pas donnés au Seigneur. Ils viennent dans l'église, mais ils sont là comme pour regarder, espionner. Ils n'ont pas ce cœur qui cherche les choses en haut. Ils vont semer de la zizanie. Paul dira même qu'il est en péril parmi ces gens-là. C'est fort comme mot. Donc, le jour même où il y aura un réveil au milieu de nous, il y aura quand même des problèmes. Il y aura des problèmes, c'est obligé. On connaît la parabole que Jésus a donnée, là où le semeur a semé de la bonne graine, dans la nuit, l'ennemi va semer de l'ivraie. partout et on le voit chaque fois qu'il y a la gloire de Dieu, il y a aussi le diable qui vient. Vous savez, les hérésies dans l'église, elles sont pas venues en 1700, 1800, elles sont venues tout de suite. D'ailleurs, les épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament, en fait, ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament. Parce que les communautés se créent et comme il y avait des rassemblements, bah, il y avait des problèmes. Donc Paul, tout de suite, il commençait à écrire des lettres pour dire « Oh, soyez vigilants là-dessus, ne vous laissez pas tromper par cela. » Donc c'est tout à fait normal. Ne soyons pas de ces idéaux, parce qu'effectivement, si on a des fausses attentes, on va être déçu. Là où il y a le bon grain, il y aura forcément l'ivraie qui sera semé. On s'était un peu provoqué la semaine dernière en prenant ces exemples. On disait, mais si le Saint-Esprit agit, est-ce qu'il va pas effectivement y avoir des manifestations au milieu de nous qui peuvent nous perturber, nous étonner? Mais c'est pas un sujet moderne, hein, vous savez. On connaît très bien les chapitres 12, 13, 14, premier épître aux Corinthiens, et Paul aborde justement la gestion des dons spirituels. Et souvent, on met en valeur et en évidence, et on a raison, la conclusion. Qui est quoi? La conclusion, c'est que tout se fasse avec ordre et bienséance. Ok? Ça, souvent, on retient la conclusion de ça. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'introduction de la gestion des dons spirituels? Ça vous dit rien? Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible en 1er épître aux Corinthiens. Et vous allez être étonné parce que c'est vrai qu'on lit ça vite fait, mais la question est sérieuse. La question de fond est sérieuse. C'est pas seulement que tiens, Paul il dit tiens, on va un peu parler des dons spirituels pour que vous soyez enseignés. Vous allez voir qu'il y avait un problème de fond qui était en train de se lever parmi les chrétiens de Corinthe. À Corinthiens chapitre 12, on y est tous. Donc, comme c'est l'introduction. Verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et continue, il y a diversité de dons, etc. Il y a le même Esprit. Mais on se dit, mais pourquoi il y a cette petite phrase au milieu? Alors je vous le dis, peut-être qu'il y en a qui ont une traduction plus francisée, plus moderne. Je vous la lis moi en parole vivante, qui met plus en évidence le problème de fond qu'il y avait. Et on va après, quand on relit le verset, on dit ah, mais c'est pour ça que Paul parle ainsi. Mais à présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s'ils émanent tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner un bon critère. Si un homme disait maudit soit Jésus, il ne saurait en aucun cas parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si par contre, quelqu'un confesse Jésus est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui l'y pousse. Et là, on comprend pourquoi Paul aborde cette problématique. C'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, il commence à y avoir un problème dans l'église de Corinthe. Et certains commençaient à se dire, mais est-ce que ça vient vraiment du Seigneur? Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit qui l'inspire celui-là? Et c'est pour ça que Paul veut développer cette question des dons spirituels et qui recadre. Et qui dit, oh, ne soyez pas là dans la suspicion des uns des autres. Alors il y a un bon critère, effectivement, si quelqu'un commence à dire, oh, le Seigneur Jésus, il est maudit, il est mort pour rien du tout. Oui, ça, stop, arrête. Stop, on arrête. Mais si la personne est dans une dimension d'action de grâce, alors. Et c'est pour ça qu'après il développe la gestion des dons spirituels. La gestion des dons spirituels. Le renouvellement spirituel ne nous évitera jamais des divergences au milieu de nous, justement. Et ça, c'est là qu'il faut qu'il y ait du discernement au milieu de nous. Parce qu'effectivement, les uns les autres, on vit les choses différemment. Il y aura toujours au milieu de l'assemblée des gens qui sont très introvertis. Et il y aura toujours des gens au milieu de nous qui seront très extravertis. Et il y aura toujours ainsi des choses à gérer, des choses à canaliser. Et il y aura toujours les grincheux, il y aura toujours ceux qui se plaindront de tout, et puis ceux qui se réjouissent de tout, même forcément de choses qu'ils n'ont peut-être pas forcément de quoi se réjouir, mais il faut. Et ça, c'est ça l'Église. On est tous différents, on aura des sensibilités différentes, des ressentis différents, des perceptions différentes. Et quel que soit le domaine, que ce soit à cause de faux frères, que ce soit à cause effectivement d'ordre et de bienséance qui a besoin d'être replacé, que ce soit peut-être par des sensibilités, on se dit mais attends, c'est bizarre ça c'est un pas du Seigneur, Paul, qu'est-ce que toi tu en penses? Il faut toujours réaliser que l'Église c'est une folie. L'Église c'est une folie. Dans la même assemblée, on a des jeunes gens qui sont peut-être en train de se bagarrer avec des désirs passionnés, alors que de l'autre côté, il y aura peut-être une grand-mère qui sera dans l'inquiétude parce que son mari sera en train de mourir, et d'un autre côté, tu auras une maman qui sera là dans la joie parce qu'elle est enceinte, et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui est dans la souffrance parce qu'il est malade, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en train d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et tout le monde est réuni dans le même lieu, avec des expériences passées différentes, avec des dons différents, avec des missions différentes, et tout le monde est réuni dans le même lieu. Et là, le Saint-Esprit agit selon les uns et selon les autres. Donc il faut comprendre qu'effectivement, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'uniformité. Le Saint-Esprit, c'est la diversité. C'est ce que dit d'ailleurs le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et c'est là qu'il faut reconnaître l'action de Dieu dans la vie d'un frère et d'une sœur. Vous verrez hein, les bonnes attentes. Hein. Je sais que ce matin, je vais beaucoup axer sur les mauvais aspects pour effectivement pouvoir semer plus clairement la semaine prochaine. Une autre mauvaise conception, une fausse conception qu'il peut y avoir au milieu de l'Église de manière générale, c'est de se dire « Ah, tous les malades seront guéri. » Alors c'est notre souhait, hein. C'est le désir de tous, et on prie pour ça. Et je crois que le Seigneur est celui qui peut guérir tous les malades. Amen. Amen. Quelle que soit l'origine, la nature, il n'y a rien. Christ a pris toutes les maladies à la croix. Mais ne vivons pas dans cette fausse illusion, dans cette fausse attente de croire que tous les malades seront guéris. Il y aura, soit par manque de foi, l'impossibilité à Dieu lui-même d'agir. Jésus lui-même ne pouvait pas guérir tous les malades. On parlait tout à l'heure que sa parole n'avait été pas reçue, mais là même, il se tenait dans l'incrédulité. Il n'avait pas fait beaucoup de miracles lorsqu'il était retourné prêcher à Nazareth. Paul écrira, deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 20, « J'ai laissé Trophime malade à Millet. » Alors je ne sais pas lequel des deux était dans la culpabilité, si c'était Paul qui dit « Oh, je suis vraiment un mauvais prédicateur, j'ai pas l'onction, j'ai pas pu guérir Trophime » ou si c'est Trophime qui était là en disant « Oh, je suis un mauvais chrétien, j'ai pas reçu la bénédiction ». Ça n'a rien à voir. Qui guérit ?
Jésus.
L'homme n'est qu'un instrument. Un instrument, c'est tout. Et donc il n'y a pas à se dire « Mais on sera forcément tous guéris ». Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, je ne crois pas trop au hasard dans la Bible. Mais il nous est parlé d'un homme qui mourut de la maladie dont il était atteint. Et ce qui m'amuse, ce qui me fait sourire, c'est là où je dis au hasard, c'est que cet homme c'est Élisée. Et Élisée, il avait reçu une double portion de l'esprit de Élie. Et c'est lui qui est mort de la maladie dont il était atteint. Alors là aussi, effectivement, Dieu est celui qui guérit, mais s'il ne guérit pas, ça ne change rien, il reste Dieu, amen. Et ça n'empêche rien qu'on peut être renouvelé, être rempli du Saint-Esprit. Élisée était un homme rempli de l'Esprit. C'est lui qui a fait le plus de miracles, en tout cas, c'est ces miracles qui sont le plus relatés dans l'Ancien Testament. Et lui, il a été malade, jusqu'à en mourir. Oh, il n'avait pas la foi, Élisée. C'est pas une question que ça. c'est que Dieu reste souverain. Mais continuons à, effectivement, à soupirer après la grâce de Dieu. Je voudrais saisir cette occasion pour développer quelques autres pensées par rapport à la guérison. Une autre fausse conception par rapport à la guérison, c'est de croire que la guérison serait une sorte d'approbation divine sur un ministère ou sur une église. On voit de plus en plus ce genre de congrégation qui mise beaucoup. C'est d'ailleurs un peu la publicité, si vous permettez l'expression. Guérison, guérison, vous serez guéri, vous serez guéri, vous serez guéri. On a bien dit tout à l'heure que qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu qui guérit.
Oui.
En Matthieu chapitre 7, verset 22, Jésus dira, mais ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui écoutent ma parole qui la mettent en pratique. Et là, il va aborder un thème un peu particulier, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Sous-entendu, attends, on a fait des choses, tu t'es manifesté, donc on est des bons, on a ton approbation. Et Jésus dira, je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité. Grande confusion pour ces gens. Parce que pendant toute leur vie, ils se sont justifiés qu'ils étaient les maîtres, les apôtres de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ils ont fait des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Et Jésus va leur dire, mais voilà, je ne vous connais pas. Parce que vous viviez dans l'injustice, dans l'iniquité. Alors faisons attention. Les miracles, les prodiges, les guérisons que Dieu fait ne sont pas là pour glorifier les hommes. Une institution, une religion, une quoi que ce soit, elle est juste là pour glorifier son nom. Il ne fait que manifester sa grâce. Il ne fait que montrer sa bonté. C'est la seule raison pour laquelle Dieu manifeste ses bontés. Et c'est pour ça qu'on peut entendre des miracles et des guérisons un peu partout. Et là, on n'est pas en train de revendiquer forcément aussi des choses qui se font effectivement par le nom de Dieu, mais avec un autre esprit, pardonnez-moi de le dire. Et là, c'est là qu'il y a tendance à être confusion dans l'esprit des gens. Dieu est celui qui veut manifester sa grâce. Il y a, je ne sais pas si c'est de plus en plus, je pense que chaque génération a ce genre de publicité, de groupe. J'ai encore reçu cette semaine un prospectus qui parlait de ça. On parle de ministères de guérison avec des rassemblements pour ceux qui cherchent à avoir la puissance de guérison, pour ceux qui cherchent la guérison, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Et tout le monde dit « Ah, c'est extraordinaire, il y a des guérisons et des miracles. » Amen. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ce sont ces gens qui sont plus que les autres? Non, parce que qui guérit?
Jésus.
Mais qu'est-ce qui provoque la guérison? La foi. Alors si on rassemble en un lieu des gens qui reçoivent une invitation en disant « Le Seigneur va te guérir !» Et le Seigneur va te donner des dons pour guérir. Mais qui va aller là-bas? Des gens qui aspirent à être guéris et des gens qui aspirent à être un sujet de bénédiction. Bref, la foi qui rencontre la foi, ça fait quoi? Ça fait le miracle. Et faisons attention. Alors oui, et Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Et faisons attention de ne pas croire que parce qu'il y a les miracles et les prodiges, alors c'est forcément là que tout ce qui est dit, c'est plus qu'ailleurs, c'est mieux que partout ailleurs. Si vous faites attention, on a eu l'occasion ici de parler de ça, mais faites attention chez vous. Quand vous lisez les commentaires que Paul parle, que Dieu donne par rapport à ses collaborateurs. Il avait toute une équipe de collaborateurs, Paul. Mais jamais, jamais, il ne parle des prodiges et des miracles que ces gens faisaient. Jamais. Pourtant, je pense qu'il devait avoir une bonne équipe. Je pense que Paul, il s'entourait là, hein, il prenait pas les... Il devait prendre des hommes compétents, des hommes sous l'esprit, des serviteurs remplis du Saint-Esprit et qui vivaient comme lui les miracles et les prodiges. Pourtant, quand il parle d'eux, jamais il ne met en avant ces démonstrations de puissance. Par contre, il mettra en avant leurs caractéristiques, leur service, leur consécration, leur amour, leur disposition pour l'œuvre de Dieu. Ça, oui. Les miracles et les prodiges, c'est la conséquence. Alors, ne recherchons pas les miracles et les prodiges, mes bien-aimés. Recherchons la foi. Recherchons à communiquer la grâce. Cherchons à communiquer, effectivement, nous, à être un instrument de bénédiction et à dire, mais le Seigneur peut tout. Mais ne recherchons pas forcément le miracle et le prodige. Recherchons d'abord la présence du Seigneur. C'est la foi qui crée le miracle. Alors, faisons aussi un petit peu attention à tous ces publicistes du miracle et du prodige, derrière lesquels, de temps en temps, les enseignements ne sont pas forcément très bibliques. Un autre point quand même à dire sur les miracles et les prodiges, c'est que, je ne sais pas comment vous dire ça, si Dieu manifeste sa bonté au travers des miracles et des prodiges, ils ne sont pas en soi l'outil de bénédiction, de salut et de transformation des cœurs. J'ai connu des hommes et des femmes qui ont été bénis au sens de guéris dans leur corps. Ils venaient à l'église, ils disaient « Seigneur, on a besoin, on veut être sauvés, etc. » Ou des inconvertis même, qui sont venus à l'église parce qu'ils avaient un problème, ils étaient malades. On a prié pour eux, ils ont été guéris. Ils ont fait quoi après ? On a vu des chrétiens qui étaient malades de longue date, ou des chrétiens qui étaient encore avec des liens, avec des problèmes, que ce soit d'ordre mental, que ce soit à des addictions. Ils vivaient avec ça depuis des années, on a prié pour eux, ils ont été délivrés. Alléluia ! Alléluia, mais comment ça se fait que quelques semaines après, soit ils retombent dans leur malheur, ou alors cette nouvelle liberté qu'ils ont, ils n'ont pas su la gérer et ils ont connu un appauvrissement spirituel. Un peu comme ces couples que j'ai en esprit, de frères, de sœurs qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur, ils étaient engagés dans l'œuvre de Dieu et ils avaient une blessure dans leur cœur, ils disaient « Oh, j'aimerais tellement pouvoir me marier !» Alors on a prié avec eux, et le Seigneur a fait grâce. Mais en quel cas il leur a fait grâce ? Oui, ils se sont mariés, mais ça a été pour eux le début d'un sommeil spirituel. Toutes les bénédictions ne sont pas salutaires. On a un exemple comme ça, Ézéchias. Vous lisez la vie d'Ézéchias, c'est un homme qui a marché selon Dieu. C'était un homme qui a été agréable au cœur de Dieu. Cet homme, il est tombé malade. Dieu dit à Isaïe, va voir Ézéchias, dis-lui que, allez, qu'il reste ses affaires et il meurt. On lui annonce à Ézéchias, il est en larmes, oh non, je dois tellement vivre et tout. Le prophète, il n'est pas sorti du palais, que Dieu lui retourne le voir, dis-lui que je rajoute 15 ans. 15 ans de trop. 15 ans de trop. Une bénédiction qu'il n'a pas su gérer. Une grâce qu'il n'a pas su gérer. Alors, amen. On doit prier pour les miracles, les prodiges, les guérisons. On doit prier pour que Dieu agisse et que véritablement toutes ces lourdeurs soient chassées du milieu de nous. Mais réalisons que, de temps en temps, il y a des bénédictions que Dieu n'accorde pas parce qu'il sait que ce serait peut-être plus une chute qu'une occasion de relève. Et Dieu sait ce qu'il fait. Ne soyons pas dans le doute. Dieu sait combien d'hommes et de femmes, de cœur, d'âme, que Dieu a pu travailler au sens bénéfique du terme, au travers de la souffrance, au travers de la maladie, au travers des circonstances difficiles. Il faut savoir gérer la difficulté, mais il faut aussi apprendre à gérer la bénédiction. Quand on a lu tout à l'heure « Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve » en Deutéronome, Dieu fera un reproche au peuple d'Israël. Il dit « Vous ne m'avez pas cherché pendant les temps favorables. » Vous ne m'avez pas servi pendant que vous étiez dans la possibilité de me servir. Alors, et là, il leur fait une liste de reproches. De temps en temps, la bénédiction que l'homme et la femme reçoivent ne se transforme pas forcément en salut. Parce que l'homme et la femme ne sont pas capables, par leur propre nature, de gérer ces grâces spirituelles. Nous ne serons pas toujours non plus, fausse conception, nous ne serons donc pas toujours exaucés. Seigneur, je vais être rempli de toi parce que je vais toujours être exaucé. Eh ben non, ce ne sera pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est Jean qui équilibre la chose. Il dit qu'on sera exaucé si on est dans la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, oui, Dieu nous promet l'exaucement. Mais ça reste lui qui est le chef. Hébreux 11, ça parle de quoi Hébreux 11? La foi. Et là, il y a toute une liste d'hommes, de femmes qui ont vécu des choses extraordinaires par la foi. C'est par la foi qui a été rendu capable. C'est par la foi, c'est par la foi. Et la conclusion, là aussi, est étonnante.
Tout à l'heure, c'était l'introduction qui était surprenante. Mais là, c'est la conclusion qui est surprenante. Parce que si vous lisez la conclusion d'Hébreux 11, l'auteur dit qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis.
Attends Seigneur, j'ai la foi, tu m'as dit, tu avais déposé ça dans mon cœur, pourtant, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est celui qui éprouve notre foi.
Alors j'aime préciser, parce que c'est la suite du texte, parce que Dieu avait en réserve quelque chose de meilleur. Donc c'est pour ça que j'aime préciser qu'ils n'ont pas été exaucés de leur vivant ce qui leur a été promis. Parce que quand Dieu donne une promesse, il la tient.
Mais effectivement, peut-être pas dans notre calendrier, peut-être pas tel que nous, on aurait pensé l'obtenir, peut-être pas dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, ou même dans notre vie, tel qu'on pourrait l'espérer.
Chère maman, cher papa, continuez à prier pour vos enfants. Peut-être que vous ne verrez jamais leur conversion. Mais peut-être qu'après votre mort, ils se convertiront.
Peut-être.
Je nous souhaite qu'ils se convertissent le plus tôt possible. L'essentiel, c'est qu'eux ne meurent pas sans avoir accepté le Seigneur. Mais je veux dire par là qu'il y a des choses, on dit Seigneur, Seigneur, tu ne t'exauces pas.
Il est en train de travailler les choses. Il l'exauce. Si le Seigneur a mis une conviction dans votre cœur, il va le faire. Il va le faire. Et même si nous, on ne le voit pas, il le fera. Le travail d'évangélisation, je trouve que c'est un travail de foi. On sème, on annonce la parole à gauche, à droite. On l'a lu tout à l'heure. Ta parole ne revient pas à toi sans effet. Mais nous, on ne voit pas les effets.
Ah bon? Parce que toi, tu vois tout.
Continuons le travail d'évangélisation. C'est au ciel qu'il y a les comptes qui seront faits. C'est au ciel qu'on verra ce qui a germé. On verra le fruit des choses. Mais au ciel.
Alors, c'est vrai. Peut-être qu'on ne sera pas toujours exaucé au sens où on ne verra pas les résultats tels que nous, on les attend. Mais le Seigneur agit toujours.
Ne soyons pas non plus de ces chrétiens qui sont renouvelés ou qui sont stimulés dans leur vie spirituelle justement en fonction de ce qu'ils sont exaucés ou pas exaucés. On voit t'entendre des chrétiens un peu comme ça en dents de scie. Quand le Seigneur les exauce, ah, ils sont tout feu, tout flamme, c'est extraordinaire, ça va comme je pensais, ça se passe comme je veux. Alors là, ils sont tout contents. Et puis dès qu'il y a un truc qui ne colle plus, ils ne sont pas exaucés, ça ne se passe pas comme eux, ils avaient escompté. Oh ouais, non, mais là, c'est pas normal. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est ce que j'appelle des chrétiens à la carotte. Tant qu'il y a une carotte devant, ils avancent. Puis une fois qu'on retire la carotte, ils avancent plus. Oh ben non, c'est pas... Mais notre vie spirituelle ne doit pas être motivée par l'exaucement. Ne doit pas être motivée par le miracle, par le spectaculaire. Ce qui doit motiver notre vie de foi, notre renouvellement spirituel, c'est notre attachement à Seigneur. C'est lui qui sera la source. Il y a des fois, comme on l'a dit au tout début, on connaîtra peut-être des moments difficiles, des moments où on ne comprendra rien du tout, des circonstances qui nous échapperont, des situations vraiment qui nous déstabiliseront. La seule chose qui nous relèvera, ce sera notre attachement au Seigneur, notre amour pour sa personne. Et là, dans ces moments-là, on vit de très belles choses. On a pu voir, de temps en temps, des gens qui se sont engagés par les eaux du baptême parce que leur vie chrétienne était pleine d'enthousiasme, comme elle l'est quand on se convertit, n'est-ce pas? Et là, on voit les choses, on voit l'œuvre de Dieu se faire, etc. Et puis quelques mois, quelques années après, ils sont plus au milieu de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de temps en temps, il y a comme ça des conceptions spirituelles qui disent « Ah, tant que je suis au Seigneur, le Seigneur guérit, le Seigneur exauce, alors c'est formidable, je continue d'avancer. » Et puis quand le Seigneur nous met sur le terrain de la vraie foi, c'est-à-dire de marcher sans voir, sans toucher, de l'épreuve, alors là, ils sont un petit peu perdus. Ils disent « Oh ben non, en fait, Dieu, Dieu n'existe pas, en fait, c'est pas comme ça. » Et c'est comme ça qu'ils s'éloignent de la vraie foi, du vrai attachement au Seigneur. et qu'on finit par les voir plus dans la nature que attachés à la parole de Dieu. Une autre mauvaise conception, je n'ai plus que deux, je suis un peu rapide, pardonnez-moi. L'autre mauvaise conception serait de se dire, lorsqu'on sera rempli du Saint-Esprit, renouvelé, qu'on sera plein de dynamisme, alors ça y est, je serai parfait. J'aurai plus à bagarrer avec mon mauvais caractère. J'aurai plus à bagarrer avec des péchés. J'aurai vraiment l'esprit tout entier au Seigneur. Je serai vraiment là vraiment dans tout mon être, là, face au péché, j'aurai plus de tentation, je serai fort, etc. Oui, nous serons forts, mais nous ne serons pas débarrassés de notre nature pécheresse. Jusqu'à un dernier jour sur cette terre, nous aurons toujours cette dualité. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires avec ceux de la chair. Jusqu'à la fin. Justement, et Paul continue, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Alors, c'est vrai, il y a comme ça des surprises dans la vie chrétienne, parce qu'on a l'impression qu'on a passé une étape, qu'on a remporté une victoire. On se dit, ça y est Seigneur, oh, c'est formidable, avant c'était compliqué, mais maintenant par la prière, par la méditation de la parole, j'ai remporté cette victoire, maintenant je suis libre par rapport à ça, j'ai plus ces attaques ou ces pulsions ou ces mauvaises réactions, alléluia. Et là on a l'impression que c'est parti. Jusqu'au moment où, oh mais comment ça se fait Seigneur, je comprends pas. C'est tout à fait normal. N'ayons pas cette fausse conception de croire que parce qu'on est rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit, ça y est, c'est parti! On est déjà au ciel! On est encore sur la terre! Et le diable sera toujours là à essayer de s'immiscer par une faille. Il les mettra, comprenez l'image, il essaiera toujours de jeter des pots de banane sur notre chemin. Parce que c'est son tout travail de nous faire chuter d'une manière ou d'une autre. Paul parle d'un de ses collaborateurs. Démas. Vous avez déjà entendu parler de ce Démas? C'était un collaborateur de Paul. Il était avec moi dans l'œuvre de Dieu. De Timothée, chapitre 4, verset 10. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Mais Démas, il a connu les choses extraordinaires. Il les a vues, les miracles et les prodiges. Il a vécu dans cette relation. Il avait un travail extraordinaire. Moi, je crois que c'est sûrement plus exaltant de partir en mission avec Paul que de travailler en SNI. Hein. Mais non, mais que il a pu voir des choses extraordinaires. Il a pu être un serviteur utile dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, par amour pour les choses du monde, son cœur s'est détaché. Donc ne croyons pas que celui qui est debout prenne garde de ne tomber. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Donc ne croyons pas que par ce renouvellement spirituel, on sera comme déjà sur la montagne et puis c'est bon, on sera tranquille. On sera jamais tranquille, mes bien-aimés, jamais. Il y aura toujours cette attaque, ces déstabilisations. La seule chose qui nous maintiendra debout, c'est ces deux petits mots, en lui. En lui. Notre vie chrétienne, notre assurance, notre stabilité, nous ne l'aurons que en lui. Dans notre intimité avec lui, dans notre cocon avec lui. J'espère que vous comprenez. Sur ma feuille, j'ai mis dans notre collage avec lui. Deux feuilles collées. Ça ne se retire pas. Et nous, en fait, notre vie spirituelle doit être collée en Dieu. On doit vraiment adhérer à lui. Si on commence à avoir de la distance, c'est là que l'on perdra pied et que l'on perdra beaucoup de force spirituelle. Ne croyons pas non plus que parce que nous serons renouvelés dans le Saint-Esprit, nous n'aurons plus besoin de sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est ces efforts que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu. Quels sont les efforts que nous devons fournir? En tant que disciple, hein, on se rappelle que disciple, c'est cette notion d'effort. C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la prière personnelle. C'est la prière avec l'Église. C'est l'enseignement. C'est ça.
Si on n'a pas ça dans nos vies, si on n'a pas cette intimité, cette vie de prière, cette sanctification dans la mise à part de tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, pardonnez-moi, au sens de se garder pur, alors on perdra pied. Et ce n'est pas parce qu'on est renouvelé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'on va connaître une visitation personnelle qu'on dit « ça y est, je suis rempli, donc maintenant... j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de lire la Bible, j'ai même plus besoin de l'Église, j'ai plus besoin d'enseignement, je suis rempli du Saint-Esprit, c'est bon. » J'ai un peu envie de nous comparer plutôt à des passoires, vous savez. On peut être rempli, mais on perd vite aussi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on doit, jour après jour, s'entretenir. Ne pas croire que sous prétexte qu'on a été visité, qu'on a été touché, alors c'est bon, on va continuer à... Tout va aller bien, tout va se faire tout seul. Il n'y a rien qui se fait tout seul, rien. Le Seigneur a besoin de notre engagement, esprit, âme, corps, discipline à tous égards. Le dernier point que je voudrais développer ce matin en fausse conception, c'est de croire que parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors on comprend tout, on sait tout, on a toujours raison, bah oui, comme on est inspiré, on a toujours raison. Et puis on a réponse à tout. Alors là, j'ai envie de dire, ça, c'est les chrétiens les plus dangereux. Mais ça fait partie des dérapages qui peuvent exister. Parce que quand on est rempli du Seigneur, on a des convictions, n'est-ce pas? Quand on est rempli, on a des certitudes, on sent que ce que l'on est en train de vivre, c'est ça, quoi. Ça vient vraiment du Seigneur. Amen. Mais vous croyez que les autres, ils n'ont pas l'esprit avec eux aussi? Vous croyez que les autres, non, en fait, vous êtes là et puis les autres, ils sont un peu là, alors c'est forcément les autres qui... Oh! Je vous ai parlé de regarder les autres avec... avec humilité, enfin de se regarder avec une humilité, ne pas regarder les autres, ne pas se regarder comme au-dessus des autres. Pardonnez-moi, je cherchais le verset. Il faut faire attention. Vous avez peut-être entendu ce genre de commentaires. Ah, mais c'est l'esprit qui m'enseigne. Ah. Et oui, bien sûr, l'esprit nous enseigne. Mais il nous enseigne tout le monde. Pas plus toi, pas plus moi. Dieu nous a créés pour être dans un corps. Et il y a de temps en temps ces dérives où effectivement, quand il est rempli, quand il est visité, il a l'impression que, en fait, il a plus que les autres. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est l'esprit qui m'enseigne. C'est l'esprit qui me dirige. C'est l'esprit qui me dit ce que j'ai à faire à gauche, à droite. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on avait vu la dernière fois qu'un des points, c'est la notion d'indépendance qui nous met des blocages. Il y a quelques exemples comme ça dans la Bible. Moïse. Petite stature ou grande stature? Grande stature. Dieu l'appelle, il accepte la mission, 80 ans. Il sort le peuple. Là, si vous voulez voir des miracles et des prodiges, prenez le temps de lire l'Exode. Il commence par les 10 plaies, puis la mer qui s'ouvre, puis les cailles qui viennent du ciel, et puis l'eau qui sort du rocher. Le mec, là, il peut en imposer, hein. Là, il peut dire, avec tous les miracles et les prodiges, là, je veux que personne n'ouvre la bouche, hein, parce que ici, le boss, c'est moi. Il aurait pu. Mais ce n'était pas du tout la mentalité de Moïse. Il discute avec son beau-père, Jéthro. Et Jéthro lui dirait, tu sais, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Et Moïse, il prend pas la mouche. Il n'est pas en train de dire, mais tu sais, c'est Dieu qui me conduit, moi. C'est moi qui fais les prodiges. C'est moi qui suis le conducteur. C'est moi qui sais. Est-ce que Dieu t'a parlé à toi? C'est moi, Moïse. Mais pas une seule fois est-ce que Moïse réagit comme ça. Il entend le conseil. Il dit, bah oui, c'est du bon sens en fait. Il ne met pas en avant ses prodiges, ses miracles, qui ne sont pas les siens d'ailleurs, qui sont les prodiges du
Seigneur. Amen.
Et il reste à sa place. Je ne suis qu'un instrument. Et quand l'instrument, on lui dit, là, t'as un petit défaut, c'est pas comme ça qu'on fait, tu sais. Et ben, t'as beau être Moïse, il faut écouter les conseils. Et ce Moïse-là, il a écouté le conseil de Jéthro. J'ai presque envie de dire, comme un enfant, auprès de son papa, quoi. Son beau-père. et ainsi de suite. Et il y a des situations comme ça qui nous ouvrent les yeux, qui nous montrent combien il y a de l'équilibre dans la parole de Dieu. Élisée, on parlait tout à l'heure d'Élisée. Élisée, lui, il est capable de voir l'armée céleste dans le ciel. Ça vous arrive, vous? De voir l'armée céleste?
Non.
Hein, pendant que son compagnon, oh, on va mourir, Élisée, oh, regarde. Oh. L'Éternel ouvre les yeux. Voilà, tu voulais voir les chars? Alors, arrête de pleurer. Élisée, c'était un homme incroyable. Un jour, une femme vient vers lui, en pleurs. Alors son compagnon, son serviteur, veut la séparer. Il dit, oh stop, arrête. Cette femme est en train de souffrir, mais l'Éternel ne me l'a pas révélé. Ouais. Élisée. Ah non, pour dire, mais il est inspiré, lui doit tout savoir, lui il sait tout. Maintenant il dit, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Laisse cette femme s'exprimer. Mais c'est beau d'avoir cette humilité dans la foi, vous savez. Ceux qui savent tout, ceux qui ont réponse à tout, ceux qui croient toujours tout savoir. C'est les plus dangereux, mes bien-aimés. C'est les plus dangereux. La semaine dernière, on avait lu cet exemple dans Actes, chapitre 21. De Philippe, il y a quatre filles qui prophétisaient dans la maison. Quatre filles qui prophétisent à la maison. C'est pas mal. Paul vient chez eux. Eh bien, il y a une prophétie qui est donnée, mais pas du tout par les quatre filles. C'est Agabus qui passe par là. Ah oh, tiens, il voit une ceinture, il commence à s'attacher les pieds, les mains. Oh voilà, comment il sera emprisonné, celui à qui appartient la ceinture. Ben, les quatre filles, elles faisaient quoi? Elles dormaient ou quoi? Mais non, parce que on n'est que des instruments. Et il nous est pas dit que Philippe a commencé à dire, oh Agabus, arrête de parler, si Dieu avait dû parler, il aurait parlé par une de mes quatre filles, toi t'es qui pour parler ainsi, en plus regarde le cinéma que tu fais avec la ceinture, c'est du n'importe quoi, sors de là. Mais pas du tout. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres, mes bien-aimés. Celui qui est seul, nous dit la Bible, cherche ce qui lui plaît. Mais Dieu ne nous a pas comparés à des individualistes, il nous a comparés à un corps. J'ai besoin de mes 10 doigts, vous aussi? De mes 2 jambes, vous aussi? Des 10 orteils, etc. Et on a besoin de chaque membre les uns des autres. Quand l'un commence à dire, moi, je n'ai pas besoin. Oh, moi, le petit doigt, il dit, oh, moi, tu sais, moi, c'est Dieu qui m'a créé, alors je fais ce que je veux. Bien sûr, ce n'est pas moi qui t'ai créé, mais j'ai besoin de toi. Mais on est comme ça. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des capacités. La seule cas dans lequel Dieu veut nous voir, c'est quand on est les uns avec les autres, servant les uns les autres. C'est pourquoi aussi, nous devons rechercher, aspirer, à dire, Seigneur, donne-moi un don. Que chacun aspire dans son intimité à dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un don. Parce que Dieu dit qu'il veut les donner à tous. À tous, il veut les donner. Que personne ne se dise, oh, c'est pas pour moi, moi je suis trop une sauterelle, moi je suis incapable. C'est faux. Nous ne sommes que des instruments, c'est vrai. Même si demain vous guérissiez, vous étiez capable d'avoir le don de guérison et de guérir tout ce que vous voyez, vous ne serez encore que rien, bien sûr. Parce que c'est pas vous qui feriez ce miracle, mais c'est Dieu au travers de vous. Et même si vous aviez la meilleure des révélations du monde, vous aurez encore besoin de l'Église, vous aurez encore besoin du frère et de la sœur, vous aurez besoin d'entendre un conseil de sage, de celui qui est assis à côté de vous. Ici, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. On a tous l'Esprit de Dieu, oui ou non? Tous. Que personne ne se dise, moi je suis plus qu'eux. On a des dons différents, c'est tout. Le pasteur n'est pas plus que quelqu'un d'autre ici. Il a juste reçu la capacité d'enseigner, c'est tout. Et chacun, nous sommes une grâce de Dieu, une grâce par laquelle Dieu veut passer. Et surtout une grâce que Dieu veut développer et se servir. Alors nous verrons la prochaine fois qu'au lieu de tous ces dérapages sur lesquels il peut arriver, vous savez, en vous parlant du dernier point, c'est vraiment avec émotion de cœur parce que j'ai eu des amis comme ça, qui avaient vraiment reçu du Seigneur. Et parce qu'effectivement, ils ont commencé à je sais pas, j'arrive même pas à mettre les mots dessus. Mais aujourd'hui, ils sont dans les champs, ils sont dans les choux. Parce que spirituellement, ils ont cru qu'ils étaient plus que les autres. Et c'est dommage.
c'est dommage de recevoir une grâce particulière du Seigneur. Et sous prétexte qu'on va se mettre un petit peu au-dessus des autres, sous prétexte qu'on ne va pas accepter les conseils, sous prétexte que parce que moi le Seigneur m'a parlé, alors je ne vois pas pourquoi lui me dirait quelque chose, on gâche ce que le Seigneur a donné. Et c'est un vrai gâchis. Parce qu'il y a le temps où on résiste, et il y a encore les frères et sœurs pour nous reprendre, pour dire « Oh, fais attention !» Mais après, ça devient de l'entêtement, de l'endurcissement, comme moi avec Pharaon. Et après, c'est trop tard. Ce n'est pas un ou deux exemples que j'ai à l'esprit, ce n'est plusieurs. Et ça peut arriver à tout le monde. Et là, si on est en train de rechercher les choses en haut, on va vivre les choses en haut, je vous le promets. Si on a faim et soif de vivre des expériences spirituelles, on va être, et je veux croire que tous, comme il est passé, tous furent remplis du Saint-Esprit et tous parlaient avec assurance. J'espère, c'est notre aspiration de vivre ces choses-là. Mais il faut qu'on soit au courant qu'il y a des dangers. Vous savez qu'une Formule 1, on voit les courses de Formule 1, n'est-ce pas? C'est des bons pilotes, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils ont une telle puissance entre les mains que quand ils dérapent, ça fait très mal, n'est-ce pas? Et dans les choses spirituelles, c'est pareil. Plus on va rechercher les choses d'en haut, plus il va y avoir effectivement une sorte de force, de puissance. Mais un moindre dérapage peut faire aussi beaucoup de dégâts. C'est pour ça. Il faut que nous soyons tous instruits, que nous puissions tous prendre soin les uns des autres, nous exhorter, nous conseiller, nous entourer, non pas avec critique, non pas avec jugement, mais avec amour fraternel, avec pardon, avec grâce, mais surtout à nous stimuler d'être chacun un instrument de bénédiction, dans l'ordre et la bienséance. Amen.